De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, à choisir entre la suite de Tanguy d'Étienne Chatillez et la réadaptation de Cimetière de Stephen King, eh bien on a choisi l'horreur, n'est-ce pas Manu?
Oui, c'est quand même plus préférable, même si le film n'est pas une franche réussite et certainement un peu inférieur à l'original. Et puis je vous parlerai aussi d'un film à moitié vénézuélien, colombien et français qui s'appelle La Familia.
Et en tout cas, le cimetière donnera l'occasion de jouer un blind test spécial Stephen King. Il faudra trouver les adaptations cinématographiques du grand romancier américain. Et
moi,
toi,
j'ai
Marine?
Choisi, enfin, j'ai vu un film horrible aussi, mais ce n'était pas volontaire du tout, puisqu'il s'agit de Captive State. Et j'en ai vu un autre, beaucoup mieux quand même, La lutte des classes, le nouveau film de Michel Leclerc.
Et puis, bien, moi, je vous parlerai d'un film colombien, Les oiseaux de passage, de Ciro Guerra. Et puis, un film allemand, Le vent de la liberté, de Michael Bulli-Herbig. Mais on débute donc avec le réalisateur du nom des gens, hein, qui signe une nouvelle comédie politique, mais cette fois-ci autour de l'école. C'est la lutte des classes.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont?
Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais, ça a l'air bien.
Mais non.
Sophia, interprétée par Leila Bekhti, s'installe avec Paul, joué par Edouard Baird, et leurs enfants dans la maison de leur rêve à Bagnolet, symbole à la fois de leur ascension sociale, puisqu'elle est devenue une brillante avocate, et de son attachement à sa ville natale, Bagnolet donc, populaire et multiculturelle. Leur plus jeune fils Corentin va à l'école primaire du quartier, mais très vite, son milieu social un peu plus aisé que ses camarades de classe tend à l'exclure. Sophia préfère conseiller à son fils de chercher à s'intégrer sans faire de vagues, tandis que Paul, musicien à la petite semaine et anarchiste vindicatif, prône lui de préserver son individualité en luttant farouchement contre l'effet de groupe. La situation ne s'arrangeant pas, ils en viennent même à penser l'impensable. Et s'il leur fallait renoncer à leurs valeurs laïques et républicaines et mettre leur fils dans une école privée?
Qu'est-ce que tu foutais là, Adama?
Alors, les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabité pigmentaire à propension musulmane.
Bon, qui mange du cochon?
Il était malade ce matin, Milo?
En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît.
On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi. C'est normal.
Bon, écoutez, Corentin, c'est le seul de la classe.
Le seul quoi?
Seul blanc.
Tu me dis ça à moi, en plus?
Oui, mais la mixité, pour que ce soit de la mixité, pour que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois?
Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants.
Michel Leclerc signe avec La lutte des classes son cinquième film et son retour à la comédie après La vie très privée de Monsieur Sim, film mélancolique qui se détachait singulièrement de son goût habituel pour la farce sociale. Ici, il fait ce qu'il sait faire de mieux, comme il l'a déjà prouvé dans Le nom des gens et Télégaucho, épingler avec amour et humour les petites et grandes contradictions des gens de gauche. En se demandant à travers son couple de protagonistes s'il faut rester fidèle à ses valeurs coûte que coûte, quitte à tomber dans un entêtement parfois vain, le film fait sourire, franchement rire aussi, parfois et réfléchir, ce qui est plutôt appréciable dans une comédie française. Alors pourquoi cette vague impression de malaise quand même à la vision du film? Eh bien sans doute parce qu'après avoir démarré en trombe et de façon très politiquement incorrecte, le film s'enlise rapidement, usant de ressorts scénaristiques particulièrement attendus, au point de tomber finalement assez vite dans la démagogie. S'il y a beaucoup de bonnes idées et de belles idées, tout est trop surligné. Le film est intelligent mais pas toujours très subtil, comme en témoigne une scène finale vraiment trop déjantée pour ne pas devenir gênante. Et puis alors, pour finir, il y a quand même quelque chose qui moi m'interroge un peu. Autant Michel Leclerc est très doué pour pointer les dysfonctionnements de notre société, autant il ne questionne jamais le fait par exemple que les personnages féminins de ses films soient souvent avec des hommes âgés de 20 ans de plus qu'elle, comme si c'était une norme. Chose qui me fait d'autant plus m'interroger que Michel Leclerc écrit ses films avec sa femme, Baya Kasmi, qu'on a d'ailleurs entendu dans la bande-annonce, et qui est, elle, quand même très loin d'être une réac de droite. Bref, voilà. Donc moi, j'étais assez mitigée. Mais les critiques sont quand même assez élogieuses, il me semble, sur le film.
Oui, sauf de la part des professeurs.
Et du Figaro aussi, qui n'a pas aimé.
Il y a quelques professeurs qui ont quitté la salle parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de clichés de l'éducation nationale. Allez, le récit haletant maintenant d'une évasion de l'Allemagne de l'Est en Montgolfière, c'est Le Vent de la Liberté.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Comment on fera si les soldats nous tirent dessus ?
Il faut aller plus haut, au-dessus des nuages.
Les films relatant la situation de l'Allemagne avant que le mur de Berlin ne s'effondre ne sont pas aussi nombreux que ça, en tout cas en France, et on pourrait même dire en Allemagne, le pays dont c'est quand même l'histoire. Hein. Il y a bien sûr les grands succès comme La vie des autres, Goodbye Lénine, voire même Le pont des espions hein, de Spielberg parmi les films récents, mais ça reste discret à tel point qu'un réalisateur allemand, Michael Bulli-Herbig, alors lui plutôt spécialisé dans les divertissements à la télévision, eh bien, a décidé de faire un film sur l'Allemagne de l'Est, étant surpris qu'une partie de la jeunesse allemande se détourne de se passer. Il s'est donc emparé d'une histoire vraie, celle de deux familles, les Strelzik et Wetzel, qui en septembre 79, alors qu'ils habitaient en RDA, donc la République démocratique allemande, donc en Allemagne de l'Est, gagnée par le communisme et la lutte contre les traites capitalistes, eh bien, ces deux familles sont parvenues à rejoindre la RFA, l'Allemagne de l'Ouest toute proche, mais inaccessible par la terre. Alors pour faire ce chemin de 18 km qui les séparait de la Bavière, ces deux familles ont pris les airs en montgolfière, mais pas une montgolfière qu'on fait venir en kit par la poste, hein. Non, une montgolfière fabriquée de toutes pièces. L'idée leur vient alors que l'un d'entre eux voit un magazine occidental relatant une compétition de montgolfière. Les qualités d'ingénieur en aéronautique d'un des courageux fuyards fait de ce projet une tentative sérieuse.
À 200 mètres près, ils se retrouvaient à l'ouest. Ils ont dû enrager si près du but.
Ratisser le périmètre dans un rayon de 500 mètres et passer au crible la moindre information.
Et si on fabriquait un autre ballon ?
Günther Lastasi est à nos trousses. Ils nous lâcheront pas. Ensemble, je sais qu'on peut y arriver.
Ça marchera jamais. C'est trop risqué.
Alors après, difficile de savoir ce qui, dans ce long métrage de Michael Bulli-Herbig, est vrai de ce qui est faux, mais sert le récit cinématographique. Car on le verra, tout n'a pas été simple. Il y aura de nombreuses péripéties. Un premier essai mené par une des deux familles va malheureusement échouer de très peu, ce qui met la Stasi, donc la redoutable police politique, à leurs trousses. L'enjeu du film, c'est que le spectateur sait, tout comme la Stasi, que malgré l'échec, les deux familles vont décoller à nouveau. De quoi permettre au réalisateur de jouer sur différents niveaux, partagés entre action, réflexion, doute et véritable jeu de piste. Car c'est là un des aspects du film, la Stasi, si elle reste toute puissante, ne peut pas tout contre ceux qui veulent quitter le pays. Alors bien sûr, on le sait, qu'il y a eu des morts, et un intertitre nous le rappelle au début du film, combien de personnes ont été abattues à la frontière entre les deux pays. Mais malgré l'ambiance oppressante de l'Allemagne de l'Est, tous les habitants ne sont pas les délateurs, et la police ne place pas ses micros partout. Mais mieux vaut quand même se méfier quand on parle de quand on parle et à qui.
Et toi, Peter, il fait quoi ton papa ?
Mon papa, il est couturier.
Et qu'est-ce qu'il coud ?
J'ai pas le droit de le dire.
À moi, tu peux tout dire, tu sais.
Il s'agit bien sûr de son institutrice. Petite cerise sur le gâteau, le voisin d'une des familles en quête de liberté est un fonctionnaire de la Stasi et le fiston est amoureux de sa fille, ce qui ne manquera pas là aussi de mettre un peu de piment. Alors la liberté est-elle à placer au-dessus de l'amour ? C'est l'une des questions qui apparaît aussi au détour de ce récit. Alors autre intérêt du Vent de la Liberté, l'un des personnages, l'enquêteur de la fameuse Stasi, montre autant de pugnacité à retrouver les traîtres à sa patrie qu'il laisse entrevoir une certaine ambivalence et clarté sur l'attirance que peut susciter la vie à l'Ouest. Provoquant, histoire de tester son interlocuteur, il se demande finalement pourquoi se démener à vouloir traquer des gens qui veulent quitter le pays, alors qu'une fois parti, ce serait un souci de moins. La mise en scène laisse bien sûr entrevoir une réponse à cette proposition. La réalisation est enlevée, l'image est propre et nette, comme on l'attend d'un divertissement. La mise en scène insiste sur la mise en place du projet risqué. Les vols en eux-mêmes prennent peu de place et cela suffit à rendre compte du climat politique et social de l'époque en Allemagne de l'Est. Cette mise en scène ne souffre d'aucune faille, si ce n'était quelques séquences un peu trop voyantes placées ici et là pour dynamiser le récit et alimenter le suspense. En racontant cette histoire de montgolfière qui permet de changer de camp, Le Vent de la Liberté dresse le portrait d'une époque, d'un pays méconnu, sans sacrifier ni au sérieux ni à la légèreté, bien qu'on sente que le réalisateur a voulu aussi et surtout faire un film d'évasion avec ce qu'il faut d'ingrédients pour que le spectateur accepte la grande histoire. Le Vent de la Liberté n'a rien à envier à Goodbye Lénine, il en est même sûrement plus proche de l'histoire que le grand succès allemand du box-office. C'est un film dans les salles depuis le 10 avril. Autre film dans les salles depuis le 10 avril, c'est Cimetière. Et c'est une réinterprétation du livre de Stephen King qui va nous donner l'occasion de jouer à un blind test.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
En se promenant dans la forêt, Ellie est tombée par hasard sur un endroit tout à fait charmant.
Un cimetière pour animaux.
Et n'oublions pas que le cimetière est écrit avec un S. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui ont écrit sur,
une pierre tombale, peut-être
non. Non, je crois que c'est sur un morceau de bois, en fait. Voilà. Alors, le cinéma américain n'en finit plus de déterrer les classiques horrifiques des années 80. Alors, après, en vrac, il y a eu Vendredi 13, The Thing et Les Griffes de la Nuit. C'est au tour de Cimetière d'en subir les frais. Alors, ce travail de détrousseur se double là d'une relecture du roman culte de Stephen King. Sans doute, d'ailleurs, un de ses plus terrifiants et mieux écrits. Hein. Le récent succès de ça a sans aucun doute incité les studios à se pencher sur les anciennes adaptations du maître de l'horreur. L'histoire de Cimetière contient suffisamment d'éléments passionnants et effrayants pour subir une révision. Alors, petit retour en arrière, hein, en 1989, Stephen King adapte lui-même son roman, délivrant un scénario très proche de l'original. Derrière la caméra, Marie Lambert suit à la lettre les consignes du mentor. Résulte un film très sombre, d'une violence graphique dérangeante, peuplée de visions morbides. Alors, qu'en est-il du film du duo, Kevin Colch et Dennis Widmayer? Alors, la gêne éprouvée, du coup, devant ce cimetière, tient au fait qu'il s'agit davantage, je dirais, d'un remake que d'une relecture du roman. Alors, pas tant pour les libertés très contestables qui sont prises par les scénaristes, que par ce constant rappel à l'original, par des références, des images, des détournements, des signes. Tout converge en direction du film de Marie Lambert, et malheureusement, pas toujours pour le meilleur. Pourtant, l'ouverture, alors bonjour Shining, il y a un plan aérien, parvient à faire illusion. Hein, donc on a ça, un travelling aérien en plongée, filmant une forêt. Alors une vision, on va dire, topographique tout de suite, qui est identifiée comme anxiogène. Les premiers plans de la maison, aussi entourés par cette végétation étouffante, laissent planer un léger frisson. Alors cette immersion dans une étrangeté qui est quand même appuyée, bien qu'en contradiction avec l'univers de King, hein, qui est réel, qui est très ancré dans le quotidien, permet d'emblée de nous intéresser au récit à venir, un récit d'ailleurs qui suit, alors au début, très fidèlement l'ouvrage. Hein. On a toujours donc le docteur Louis Creed et sa femme Rachel, ses deux enfants, Ellie et Gage, et puis leur chat, très important, le chat, Church. Alors ils quittent l'univers citadin de Boston pour s'installer donc en pleine zone rurale dans le Maine. Évidemment, comme ils ne font pas les choses à moitié, ils se retrouvent dans une vaste demeure isolée, cernée par une forêt gigantesque.
Avec des bruits inquiétants.
Voilà, c'est un peu c'est l'endroit où tu te dis, bon, on va pas y aller, on va peut-être pas habiter là, il y a un truc, et puis la maison, elle est bien trop grande. Enfin, bon, c'est un peu habituel. Le médecin fait alors la connaissance d'un étrange voisin, parce qu'il faut bien aussi un étrange voisin, Judd Crandall. Alors après la mort du chat, Church, qui se fait écraser par un camion, Crandall emmène Creed l'enterrer dans un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Et ben le lendemain, le chat réapparaît, mais c'est plus tout à fait le même. Alors dès lors, une série d'événements tragiques va précipiter la famille vers, on va dire, les tréfonds de l'horreur.
Je sais ce que vous voulez faire. Mais quand ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes.
Papa.
Louise, qu'est-ce qui se passe ?
J'aurais jamais dû vous montrer cet endroit. C'est pas seulement votre enfant qui va revenir.
La barrière est brisée.
Parfois, il y a pire que la mort.
Alors la frontalité morbide du film de Marie Lambert laisse place ici à une œuvre beaucoup plus convenue, souvent poussive, après une première demi-heure réussie, enchaînant quelques plans là authentiquement envoûtants, montrant notamment une séquence qui montre les enfants masqués recréant une procession pour aller enterrer un animal. Alors les réalisateurs parviennent à instaurer une ambiance de déliquescence hantée par la mort qui semble contaminer cette famille psychiquement traumatisée par des événements passés. Le docteur essaie de canaliser cette peur qui ronge sa femme depuis le décès de sa sœur et sa fille en plein questionnement, on va dire, sur l'au-delà. Mais lorsque le film bascule vraiment dans l'épouvante, il perd de son attrait pour s'enfoncer dans les lames de la médiocrité. Le mini-twist à la moitié du film, alors trahison totale du roman, mais pourquoi pas, révèle avant tout l'impuissance des scénaristes à renouveler le genre. Cette erreur impardonnable enfonce le film surtout dans une banalité affligeante, lui ôte la singularité de la première version. Alors surtout, ce changement de perspective invite malheureusement le récit à se livrer à des explications redondantes, des réflexions moralisatrices sur le fait de ressusciter les morts. Alors la dimension puritaine et religieuse du film, là, explose à l'écran. Je ne peux pas trop en dire, parce qu'il faut quand même, il y a quand même un petit suspense, voilà. Là où le roman, quand même, était beaucoup plus nuancé, voire ambigu, développant même une vision, on va dire, païenne de la résurrection. Alors, ces faiblesses d'écriture ne sont pas rehaussées par une mise en scène, on va dire, elle est aseptisée, mais très correcte, desservant le propos qui porte en soi les germes d'un film malsain et putride, dérangeant et trivial. Et ce ne sont pas les quelques scènes gore, paradoxalement timides, mais en même temps très gratuites, qui vont rehausser le niveau de ce remake, n'hésitons pas à le dire, assez médiocre. Il faut attendre juste la toute fin pour que surgisse quelque chose d'un peu, on va dire, d'un peu dérangeant.
Alors c'était donc une nouvelle adaptation à l'écran d'un roman de Stephen King, sans doute l'un des romanciers les plus adaptés au cinéma. Eh bien, on va voir d'ailleurs qu'il a apprécié quelques films, mais d'autres qu'il n'a pas apprécié. Alors on commence par le début.
Maman, il faut que tu comprennes que je suis pas comme toi. Tout le monde à l'école trouve que je suis bizarre. Et moi, je veux être normale. Je veux être comme mes autres camarades. Je veux profiter de la vie. Il s'appelle Tommy Ross, il est gentil, c'est un très gentil garçon.
Non.
Il viendrait me chercher à la maison en voiture et il me raccompagnera à minuit. J'ai accepté,
non.
Maman.
Non.
Je ne peux plus dire non maintenant, j'ai accepté.
Il est dans ton placard.
Non.
Avec l'enseignement que tu as reçu, tu n'as pas honte.
C'est pas mauvais, maman, le bien existe sur la terre.
Va faire pénitence et demander à Dieu le pardon de tes fautes.
Alors, ça a été trouvé, évidemment.
C'était Carrie hein, de Palma. Hein. Mmh. Pour moi, la meilleure adaptation d'un Stephen King, mais c'est pas très surprenant ce que je dis.
Hein. Alors, en même temps, Stephen King, lui, ne l'a pas du tout renié. Il était plutôt content. Hein. C'était d'ailleurs le premier roman adapté au cinéma et le premier roman de Stephen King. En revanche, eh bien, on passe à un autre sujet un peu plus délicat.
Je crois qu'un tas de choses se sont passées ici, précisément dans cet hôtel, au cours des années. Et pas toutes recommandables.
C'est quoi la chambre 237 ?
Chambre 237 ?
Vous avez peur de la chambre 237 ?
Pas du tout.
Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237 ?
Wow, c'était facile.
Bah oui, c'était shiny. Et surtout quand tu annonces que les choses ne se sont pas très très bien passées.
Oui.
Puisque c'est vraiment, je crois, l'une des rares adaptations que déteste vraiment Stephen King.
Au point
Mais ça tombe bien parce que Kubrick n'aimait pas le roman.
C'était partagé. Donc, au point donc, que Stephen King a tenté de faire sa version à lui un peu plus tard. Qui n'a pas eu
qui
du tout
pas,
le succès.
Oui, voilà. c'était un téléfilm d'ailleurs.
Allez, troisième extrait de ce blind test.
Pourquoi il y a autant de meurtres et d'enfants portés disparus ?
Derry ne ressemble à aucune autre ville. Il y a une étude qui dit que visiblement, il y a 6 fois plus de disparitions et de décès qu'ailleurs au pays.
C'est ce que t'as lu ?
Et ça, c'est que les adultes, les enfants, c'est pire. Bien, bien pire. J'ai plein d'autres articles si vous voulez les voir.
Non, non.
Alors, ça a été trouvé aussi.
Eh bien, c'est la nouvelle version de ça.
Et le chapitre 2, lui... Alors ça, c'était la version 2017. Et puis, le chapitre 2 est annoncé en septembre de cette année. Quatrième extrait.
Vous avez regardé Disney à la télé ces temps-ci ?
Ouais.
Je trouve qu'Annette, il y a du monde au balcon.
Tu crois ?
Ça, j'en suis sûr.
Oh, il a l'œil, le mec. J'ai remarqué l'autre soir que le A et le E, ils sont en haut de bout de son t-shirt.
Annette, elle a de ses lolos.
Oh, ouais.
Ouais. On se marre bien tous les quatre ensemble.
Vachement.
S'il a dit bouffi.
Verne ne faisait pas allusion qu'à notre percée chez le casseur ou aux vannes qu'on racontait à nos vieux ou à notre petite virée ferroviaire jusqu'à Arlo. Il y faisait allusion, mais il me semble aujourd'hui qu'il y avait plus que ça. Et nous le sentions tous. C'était la vraie vie, là, tout autour de nous. Nous savions exactement qui nous étions et très exactement où nous en étions. C'était géant.
Alors, ça a été trouvé.
Et c'est Stand By Me de Rob Reiner, avec d'ailleurs River Phoenix qui joue dedans, le frère de Joaquin. Qui
est et donc ça fait partie des films que le romancier a beaucoup apprécié.
C'est une nouvelle très courte à la base.
Et un autre film qu'il a aussi apprécié.
Je n'ai pas tué ma femme, je n'ai pas tué son amant. Quelles que soient les fautes que j'ai commises, j'ai payé plus que j'aurais dû. Cet hôtel, ce bateau, je ne crois pas que ce soit trop demandé.
Je trouve que tu devrais pas te faire ce genre d'illusions. Tu te fais du mal avec ces rêves de merde. Enfin, le Mexique est là et toi tu es ici, tu comprends ? Les choses sont comme ça.
Oui, c'est vrai, les choses sont comme ça. C'est loin d'ici et je suis là-dedans. Je crois que tout se résume à un simple choix en réalité. Dépêche-toi de vivre. Ou dépêche-toi de mourir.
Alors, ça a été trouvé, encore une fois.
Et c'est Les Évadés de Frank Darabont.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial adaptation de Stephen King à l'écran. Et maintenant, eh bien, on passe au trafic de marijuana en Colombie.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Entre films noirs, films de gangsters, westerns et contes cruels, Les Oiseaux de Passage raconte le début des trafics de marijuana en direction des États-Unis, ce qu'on appelait la Bonanza Marimbera dans les années 70. Un trafic de grande ampleur qui a touché de plein fouet les tribus indiennes de Colombie. On doit ce film à un duo qui, dans son précédent long métrage, nous avait emmené dans la forêt amazonienne au contact de mythes anciens, peu à peu dénaturés par la présence occidentale. Il s'agissait de L'étreinte du serpent, un film qui a dépassé les 100 000 entrées en France, ce qui, pour la forme qu'il proposait, est un véritable succès. Il faut dire que le réalisateur sait y faire, aidé par sa coproductrice, qui est maintenant devenue eh bien, sa co-réalisatrice, il sait donner à son sujet une aura mystérieuse, envoûtante, nous tirant du simple naturalisme. Aussi, pour ce nouveau film, le duo a souhaité parler des peuples originaires de l'Amérique latine et de leur histoire souvent ignorée, mais en les adaptant eh bien, au canon du cinéma de genre. Nous sommes placés dans le désert, au nord du pays, au sein des Wayuu. Au début, eh bien, il est question d'une femme qui doit trouver un époux en abandonnant sa virginité. Le prétendant est un homme du village qui vit de petit trafic avec des Américains. Il ne tardera pas à trouver un trafic plus florissant en commerçant avec une tribu amie chez qui il prend la marijuana pour ensuite eh bien, la placer par paquet entier dans de petits avions direction le pays de l'oncle Sam. Mais quand l'avidité se mêle à l'honneur des familles, la guerre des clans finit par surgir. Chacun y va de sa tradition, de son rite, invoquant les ancêtres, les alliances, mais ça ne suffit pas à arrêter le carnage et on aurait même tendance à penser que ça l'empire. Reste un immense gâchis que met en scène eh bien, le duo de réalisateurs colombiens, Ciro Guerra et Cristina Jaleo, je pense, au travers de ce long métrage qui va raconter eh bien, comment le commerce de la drogue va semer le chaos au sein de la communauté amérindienne. Les réalisateurs déploient une métaphore de leur pays. La tragédie familiale devient alors une tragédie nationale. Là, on écoute eh bien, la Yona, qui est une espèce de danse nuptiale. Et donc, les réalisateurs parviennent avec justesse à montrer les rites et coutumes du peuple Wayuu, qui est actuellement la communauté indienne la plus représentée au Colombie. On y voit à l'œuvre eh bien, notamment le matriarcat, c'est en effet la belle-mère du trafiquant, qui indique à chacun quelle est sa place et ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour respecter la tradition. Ainsi, les femmes portent une grande partie du poids du groupe social. De leur côté, les hommes eh bien, ne restent pas les bras croisés. Ils sont même les artisans de la violence, qui est tantôt montrée frontalement et parfois hors champ. Peu à peu, à mesure que la drogue prend le dessus, eh bien, ce trafic corrompt les individus. Il menace le groupe et les rites et traditions teintées de magie qui ouvrent le film finissent par se diluer. Tout y est, caïd, menace, vengeance, exécution, intimidation, lieu désertique ou forêt humide. On est en plein western. Le film américain alors, a une longue tradition de films de gangsters, mais pas en Colombie. On est davantage habitué à la figure d'un Pablo Escobar qu'à des Amérindiens qui cherchent à prendre leur part du trafic. Tout autant ethnologique qu'habité par le genre, Les Oiseaux de Passage est une œuvre délicate, sombre, qui fait preuve de simplicité dans son exécution et sa narration. Le son, l'image, les costumes, le jeu des acteurs pour partie amateur, les décors nourrissent une tension dramatique qui ne se dénoue qu'à la toute fin. Voilà, donc autant dire que je recommande ce film qui est dans les salles depuis le 10 avril. À noter que Ciro Guerra, donc l'un des co-réalisateurs, sera le président de la semaine de la critique lors de ce festival de Cannes. De la Colombie, on passe à un drame social vénézuélien, La Familia.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors c'est quoi la famille hein ? Dans La Familia, elle se réduit à peau de chagrin, on va dire, à un père et à son fils, on ne saura rien du reste. Relation sanguine et conflictuelle qui détermine tout l'enjeu de ce film âpre, permettant de découvrir un cinéaste, Gustavo Rondón Córdova. Le début évoque d'ailleurs furieusement le très beau film, enfin le classique de Luis Buñuel, Los Olvidados. Le cinéaste braque sa caméra dans les rues mal famées de la banlieue de Caracas. Il filme sans fioriture et démagogie l'errance d'une bande de préados livrés à eux-mêmes et s'attarde sur donc le fils, l'un d'eux, Pedro, petite frappe de 12 ans au regard dur, connaissant davantage les lieux de perdition que les bancs de l'école. Alors une virée nocturne en boîte de nuit suivie d'une partie de jeu vidéo pourrait laisser craindre le pire, soit le portrait consensuel d'une jeunesse à l'abandon dans une ville gangrénée par la misère. Alors le père de Pedro, Andrés, apparaît sous le regard de son fils qu'il observe, mutique. En deux plans, le réalisateur capte en fait la difficulté de communiquer entre les deux qui se cristallise autour de ces deux figures finalement très classiques du cinéma. Un père distant mais présent qui se tue au travail, cumule les petits boulots sous le regard, on va dire, parfois accusateur de son fils. Et puis, Ben, le drame surgit. Un garçon du quartier menace Pedro et sa bande avec un flingue. La séquence tendue est remarquablement filmée, hein, caméra au point, avec une énergie salvatrice et surtout une absence de complaisance, comme en témoigne la suite. Alors, plutôt que de montrer l'irréparable, l'acte de violence, Cordova mise sur la sobriété, en filmant enfin, totalement hors champ la violence, ne montrant pas le moment où Pedro plante un bout de verre dans le ventre du garçon. Alors, ce dernier déambule dans la rue, rencontrant alors le père désemparé, tentant alors de l'aider jusqu'à l'instant fatidique où il voit arriver son fils ensanglanté. Il comprend dès lors la situation. L'enfant est condamné, son fils est un meurtrier. Alors, pour sauver leur peau d'une vendetta, le père et le garçon prennent la fuite et se cachent là où ils peuvent être accueillis. Alors, toute cette première partie immersive et passionnante résulte d'un travail cinématographique assez impressionnant. Il y a un sens du découpage et de l'ellipse, de la narration allant à l'essentiel, maîtrise du style caméra à l'épaule saisissant l'urgence. Il y a un refus total de la musique. Enfin, on est vraiment pris dans quelque chose d'assez fort. Alors, il est dommage d'ailleurs que le film ne poursuive pas dans cette voie, lui imprimant une authenticité proche du documentaire. Après cette entrée, on va dire, en matière un peu estomacante, le film va emprunter une voie plus prosaïque, vers un scénario à l'écriture ténue, invoquant davantage de fiction, mais aussi des conventions. Évidemment, les rapports conflictuels entre père et fils vont petit à petit se résorber. Ils vont apprendre à se connaître. Cette dimension parvient cependant à éviter le sentimentalisme. Le film reste digne, alors ne s'enlise pas dans des situations psychologiques et démonstratives. Les dialogues s'en tiennent à leur caractère informatif et puis les personnages existent vraiment. Bref, La Familia dresse aussi en filigrane le portrait convaincant d'un système paranoïaque bâti sur la répression individuelle où tout un chacun se méfie de son voisin, où personne ne tend plus la main à l'autre. Le réalisateur filme une déshumanisation, une désolidarisation même des pauvres entre eux. Dans une métropole où la violence est devenue un peu quotidienne, où la peur est normalisée, elle est considérée comme une émotion inhérente à la nature humaine et surtout comme constamment présente, ce road movie, on va dire, instable, récit d'une fuite, mais aussi d'un rapprochement, finit quand même par toucher. Même si vraiment le début est remarquable, les jeunes interprètes sont absolument excellents. Le jeune interprète et le père aussi. Je ne sais pas si ce sont des acteurs professionnels, mais en tout cas, il y a une vraie authenticité qui se dégage de ce troisième long métrage, en fait.
Eh bien, ce film est dans les salles depuis le 10 avril. On termine très vite avec un film que n'a pas du tout apprécié Marie.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
L'état de notre union est solide. Le chômage n'a jamais été aussi bas. La pauvreté a été éradiquée. Le crime n'existe plus. Soyons reconnaissants. Reconnaissants. Reconnaissant. Et on finit donc sur Captive State de Rupert Wyatt. Dans un futur proche, la Terre est tombée, comme c'est original, aux mains des aliens. Alors on notera que comme souvent dans le cinéma américain, ce n'est pas la faute des humains si la Terre va mal. Non, c'est la faute des envahisseurs qui ne sont pas comme nous. Les aliens donc, qui ont l'apparence de porcs bipèdes recouverts de piquants empoisonnés, contrôlent les humains grâce à des implants insérés dans leur gorge et qui leur permettent de tracer leurs moindres faits et gestes. Nous suivons ainsi à Chicago une armée de résistants qui tente dans l'ombre de combattre les envahisseurs et les humains qui collaborent avec eux. Le problème, c'est qu'on en a, mais alors absolument rien à faire, tant le film est incompréhensible, tout ce qui pourrait devenir une bonne idée de mise en scène étant systématiquement évacué par un réalisateur visiblement très pressé de rentrer chez lui. Le teaser qu'on a entendu tout à l'heure, extrêmement alléchant, laissait penser à une dystopie ambitieuse, anxiogène, qui aurait pallié à son manque de moyens par une mise en scène astucieuse et un rythme enflammé. Alors pour ce qui est du rythme enflammé, on peut dire qu'on le tient. Aucun plan ne dure plus d'une demi-seconde. La plupart est encadrée tellement serrée que l'on se demande si le film n'a pas été tourné dans un ascenseur. Mais ce découpage à la hache est surtout accompagné d'une écriture totalement brouillonne, elliptique, qui ne permet de comprendre ni les trajectoires des personnages, ni leurs objectifs, ni même leurs noms, puisque les scénaristes n'ont parfois même pas pris soin de les nommer. Alors certes, le film a été conçu avec un mini-budget, 25 millions de dollars, ce qui explique son aspect série B, ses effets spéciaux un peu bâclés, ses acteurs de seconde zone relativement, mais un budget réduit n'a jamais empêché de réussir un film, surtout lorsqu'il s'agit d'un film de genre. Je pense par exemple à Chronicle de Josh Trank, qui avait été réalisé en 2012 avec la moitié du budget de Captive State, c'est-à-dire 12 millions de dollars contre 25 millions, et en faisant en plus le choix d'effets spéciaux entièrement mécaniques et non numériques. En définitive, eh bien, le titre « Captive State », que l'on peut traduire par « l'état captif », c'est un peu notre état, nous, spectateurs, attirés dans les salles, donc par un teaser trop réussi et pris ensuite en otage pendant 2 heures par un film raté de bout en bout, écrit par un générateur de scénario et réalisé avec les pieds. Alors j'en veux beaucoup à ce film de m'avoir fait perdre 2 heures de ma vie, comme vous pouvez le voir. Il est vrai que la vision forcée en version française n'est pas étrangère à mon dégoût, mais très sincèrement, le niveau global du film, son histoire, tellement vue et revue, me font m'interroger pourquoi ce film ? Parce que même si son budget est minime pour Hollywood, 25 millions encore une fois, eh bien 25 millions, c'est quand même par exemple le budget annuel alloué au réseau cyclable de la ville de Toulouse. Donc je demande, était-ce vraiment la peine ?
Mais les Américains n'ont que faire et ils vont chercher à gagner 3 fois plus que 25 millions, je pense. Allez, c'est terminé. Et si on veut, en revanche, faire un petit rattrapage avec Rupert Wyatt, il a quand même réalisé le premier opus de La planète des singes, qui était quand même une bonne réussite.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure !
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
On l'avait promis il y a 15 jours, la semaine prochaine ce sera l'interview de Fernando Salinas pour le Grain Livret et puis on aura vu d'autres films.
Oui, moi je vous parlerai du nouveau film de Anne Fontaine, Blanche comme neige.
Et moi La malédiction de la Dame Blanche.